Radio Okapi. L'aéroport international de Bangoka fait peau neuve, une fierté donc pour la province de la Tchopo. Mais pour quelle opportunité et usage? La question se pose ainsi en ce début de ce journal. Nous en avons une idée un peu plus claire dans un reportage signé Jacques Mkonkole depuis Kisangani. À suivre aussi dans cette édition, cette préoccupation de la société civile dans le Nord Kivu au sujet des conséquences de la reprise des combats aux prises entre rebelles du M23 et les volontaires pour la défense de la patrie dit Wazalendo dans certaines contrées du territoire de Walikale. La précarité de la vie nécessite des efforts de la part du gouvernement. Lutte contre la pauvreté, nous en parlons en fin de ce journal avec notre invité Arsène Aganzé, délégué national du mouvement ATD Car Monde, un mouvement engagé à mettre fin à l'extrême pauvreté dans la partie Est. Nous parlons sous peu de tous ces faits d'actualité et bien d'autres sur diverses fréquences des radios Okapi. Amis à l'écoute, merci de la confiance que vous ne cessez de nous témoigner pour votre information. Et maintenant, place aux autres détails. Bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Bonsoir. Dans la province de la Tchopo, vous le savez, le chef de l'État a inauguré l'aéroport international de Kisangani samedi dans la soirée. Cet aéroport est devenu actuellement le meilleur du pays selon le gouverneur de province Paulin Lendongolia. Les avantages d'en disposer sont indéniables. Cependant, d'aucuns s'interrogent sur la nécessité de détenir de telles installations aéroportuaires dans une ville où les activités économiques sont quasiment inexistantes. Qu'en pensent les uns et les autres? Jacques Mkonkole.
Tout le monde est unanime à reconnaître que sur le plan social, les voyageurs peuvent désormais être reçus dans des conditions adéquates dans l'aérogare rénovée. Néanmoins, sur le plan économique, les seules infrastructures ne suffisent pas. L'aéroport doit être rentabilisé, déclare le sénateur Jean Bamanissa Saïdi.
Dans notre plan, il était question que nous puissions transformer par exemple l'or ici, la raffinerie d'or, ici même à l'aéroport, dans un endroit sécurisé pour pouvoir exporter directement à partir d'ici. Et aussi, cet aéroport devrait servir aussi de base logistique.
Tout en partageant cet avis, le professeur Patrick Matata trouve qu'au-delà des activités économiques à entreprendre, la RVA pourrait tirer des bénéfices relatifs au flux du trafic aérien sur le plan international.
Ça va permettre à la RVA et aux structures impliquées de bénéficier des redevances liées au trafic des avions qui passent par Kisangani.
Il ne reste plus qu'aux autorités et aux opérateurs économiques de travailler pour que cet aéroport ne soit pas un simple objet d'admiration, mais plutôt un outil de développement économique, déclare un observateur averti. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
On est encore dans la Grande Orientale. Les ressortissants des pays voisins de la République démocratique du Congo, notamment l'Ouganda, installés en Ituri, plaident pour la suppression de visas en RDC. Cela en application de la mesure de libre-échange entre les États de l'Afrique de l'Est, entrée en vigueur depuis octobre 2023. Selon leurs représentants à Bunia, ils sont victimes de tracasseries par les services de sécurité qui exigent des montants exorbitants. Isaac Remoyope.
Parmi les centaines de ressortissants des pays voisins installés à Bunia depuis plusieurs années, se trouvent des Ougandais. Ils exercent différents métiers, plomberie, soudure, agents de gardiennage, maçonnerie, mécanique et des petites activités génératrices de revenus. D'autres sont des chauffeurs des camions de transport des marchandises importées ou des commerçants qui viennent régulièrement en RDC. Selon leurs représentants, ils sont tous soumis au paiement de $50 de visa chaque mois. Ceux qui détiennent des passeports payent une somme comprise entre 185 et $549 américains pour un séjour d'un à six mois avec plusieurs entrées. Le même tarif est appliqué aux Sud-Soudanais et aux Tanzaniens. Selon les mêmes sources, ceux qui sont en séjour irrégulier sont traqués par les services de sécurité, alors que les Congolais sont exemptés des frais de visa dans leur pays. Ils demandent au gouvernement congolais de supprimer les paiements des visas dans le cadre du principe de réciprocité de la mesure de libre-échange entre les États de l'Afrique de l'Est. Certaines sources des services d'immigration indiquent qu'ils attendent des instructions de leur hiérarchie pour l'application de cette mesure. Signalons qu'une marche pacifique a été organisée il y a des semaines à Bunia par les ressortissants de ces pays pour exprimer leur ras-le-bol. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et puis la société civile de Mamouvé, une localité du groupement de Batangimbaou dans le Nord Kivu, est satisfaite du changement opéré par le gouverneur de province au niveau des prestataires de la route Oicha-Maleki-Mamouvé et Beou-Maniema
Kinos Katuo, son président, pense que le nouveau prestataire de l'entretien de cette route, le bureau d'études et des constructions pour l'émergence du Congo Beseko Israël, qui remplace Congo Technologie, pourra répondre aux attentes de la population, notamment l'entretien de la route et la canalisation des taxes perçues sur la route dans les caisses du trésor public. Kinos Katuo est joint au téléphone par André Kitenge.
La société civile de Mamové salue la décision du gouverneur de province pour encore attribuer la route de l'axe Oicha Maleki Mamové à l'entreprise Beseko afin de répondre aux doléances de la population locale. Ça fait très longtemps que la population s'est soulevée contre le paiement des taxes et péages de route sur ces taxes, au moins que l'attributeur ne voulait pas affecter cet argent dans la route de dessert agricole de Mamové. Voilà, nous saluons la décision du gouverneur qui va permettre l'entretien direct et total de cette taxe afin de permettre aux militaires qui sont en train de faire les opérations militaires à traquer la DEFNAL qui est en train de déranger la communauté locale dans cette entité.
Dans un futur proche, la province du Kwilu sera dotée d'un laboratoire provincial moderne pour des recherches biologiques, autrement dit Institut National de Recherche Biologique, INRB Kwilu. Les travaux de construction de ce grand laboratoire sont en cours d'exécution par l'entreprise de construction des bâtiments publics ETRAP. Le chef de division provinciale de la santé, Dr Jean-Paul Matela, a visité ce chantier samedi et a fait savoir que ses travaux avancent très bien. Cependant, cette entreprise affirme avoir rencontré certaines difficultés pour bien travailler, notamment des difficultés pour acheminer les matériaux de construction de Kinshasa à Bandundu-Ville à cause du mauvais état de la route nationale numéro 17 entre Bandundu et Mongata. L'architecte Félix Pengue, chef du chantier adjoint, explique au micro de Irène Boma.
Nous sommes déjà au niveau de l'élévation de ces bâtiments. Nous sommes déjà au niveau des ceintures. Nous avons énormément de difficultés, surtout au niveau des provisionnements des matériaux, vu l'état de la route. Parce que tout ce que nous utilisons ici, ça provient de Kinshasa. Il y a les blocs, ciment, barres de fer. Je dirais même à 90% les matériaux que nous utilisons ici, ça provient de Kinshasa. L'enchaînement des matériaux de Kinshasa à Bandundu-Ville, ça nous semble très difficile parce que l'état de la route vraiment est impraticable. Donc on a beaucoup souffert pour que nous arrivions à ce niveau. Nous utilisons la voie fluviale, mais ce n'est pas aussi facile parce que ça nous prend beaucoup de jours. Donc nous avons aussi un problème d'eau parce que s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Il y a des fois, on arrive à s'approvisionner au niveau de la rivière Kwilu. C'est aussi difficile pour nous. Si les barons des fonds peuvent nous faciliter la tâche, nous ayons ici sur place le forage, ça va nous faciliter aussi la tâche.
Parlant de cette ville de Bandundu, sachez que l'électricité vient d'être rétablie cet après-midi. Selon le directeur provincial de la Société nationale d'électricité, SNEL Kwilu, la coupure était due au détachement d'un câble au niveau du poste haute tension de Tobakita, non loin de Kinsele, sur la route nationale numéro 17. Une équipe de techniciens venus de Kinshasa s'est rendue samedi sur les lieux en compagnie d'une équipe des techniciens de Bandundu et des éléments des FRDC pour décanter la situation. Nous en sommes à notre deuxième titre de ce journal à Kinshasa, il est 18h08. Nord Kivu, la situation humanitaire se détériore dans certaines contrées du territoire de Walikale depuis la reprise des combats entre les rebelles du M23 et les volontaires pour la défense de la patrie Wazalendo. La société civile locale qui déplore cet état des choses demande au gouvernement congolais de redoubler d'efforts pour ramener la paix et la sécurité dans la province du Nord Kivu de manière générale. Elle plaide en outre pour une assistance aux familles déplacées et à celles qui accueillent principalement dans les groupements de Kisimba et Dikobo. On écoute Fiston Misona, président de la coordination de la société civile Force Vive en territoire de Walikale, dans ses propos recueillis par Chris Mukand.
Nous venons une fois de plus pour alerter l'État congolais par rapport aux atrocités qui se passent au Nord Kivu, en général et en particulier aussi en territoire de Walikale. Cela suite aux affrontements qui sont enregistrés dans la partie nord du territoire de Walikale, principalement dans les groupements Kisimba et Ikobo. Et cette situation fait qu'il y ait le déplacement massif de la population, mais aussi les incendies des maisons, les assassinats des civils dans les zones de combat. Et voilà donc pourquoi nous venons auprès de l'État congolais de faire le plus vite possible pour en découdre avec ces situations d'M23 à l'est de la RDC en général et en particulier au Nord Kivu. Et en drôle de cela, nous voudrions que l'État congolais puisse assister les déplacés qui sont dans des familles d'accueil au niveau de Pinga, au niveau de Bouleoussa et partout ailleurs dans les groupements Ikobo et Kisimba. Et aussi d'utiliser tous les moyens possibles pour que les éléments du M23 puissent être dégagés dans toutes les zones occupées. Nous avons des hélicoptères de guerre, nous avons des drones. Pourquoi tous ces instruments ne sont pas utilisés?
Province de l'Ituri, environ 35% des ex-combattants ont déjà quitté le site de Diango à une dizaine de kilomètres de Bounia pour regagner leur village d'origine. Cela à cause des conditions de vie précaires depuis 2 ans, déclarent leurs compagnons. Selon ces derniers, cette situation décourage d'autres miliciens qui étaient prêts à déposer les armes pour rejoindre le programme de désarmement et démobilisation. Certains acteurs de la société civile craignent que ces démobilisés ne rejoignent leurs anciennes milices pour la survie. Reportage d'Isaac Remoyope.
Environ 75 ex-combattants sur les 200 qui ont adhéré au processus des DDRCS ont déjà regagné leur village d'origine, notamment Nyakunde, Komanda et Kwandroma, dans les territoires de Djougou et d'Irumu. Ils n'ont pas supporté la vie des galères au site, mais aussi le non-respect du calendrier prévu pour 6 mois depuis avril 2022 pour l'exécution du programme de désarmement et de mobilisation. Pourtant, affirmaient-ils, leurs anciens compagnons qui n'arrêtent pas de les appeler attendaient avec impatience leur insertion pour leur emboîter les pas. L'un d'eux, ceux qui sont en brousse veulent venir, mais le retard du gouvernement pour exécuter le programme, c'est ce qui les décourage. Ils veulent voir l'exemple chez nous, comment nous serons traités. La désintégration familiale est aussi l'une des raisons qui ont poussé ces ex-combattants à regagner leurs milliers d'origine. La plupart installés encore au site affirment avoir perdu des êtres chers, parents, épouses ou enfants, morts pour certains, ou qui se sont remariés pour d'autres. Comme nous avons traîné ici, ma femme s'est remariée, a eu même d'autres enfants. Mes enfants sont restés isolés. Une vingtaine de dépendants de certains ex-combattants ont rejoint leurs maris ou parents au site de Diango en attendant l'effectivité de ces processus de DDRCS attendus depuis plus de 2 ans. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Nous allons nous déplacer à présent vers la province du Olomami où l'administrateur à titre intérimaire du territoire de Bukama appelle ses administrés au calme. C'est à la suite des conflits coutumiers survenus dans les villages Maka et Katoboué qui ont provoqué des affrontements. Des tueries et autres cas de viol y ont été aussi enregistrés. Pour l'autorité territoriale, une entité ne peut se développer dans un environnement des troubles. On écoute Amadou Kalinga, administrateur du territoire de Bukama à titre intérimaire, rejoint par Jean Gandou.
Aucune entité ne peut se développer sans la paix. Les tueries pour cause des conflits coutumiers n'a pas de place. Il faut donc attendre que tout se fasse selon l'ordre établi et selon la demande faite par l'autorité. Que les uns et les autres cessent de s'entretuer, que les cas de vol, viol et autres puissent s'arrêter. Parce que nous sommes tous enfants d'une même province, d'un même territoire, d'un même pays. S'il y a des problèmes, ils peuvent toujours se régler autour d'une même table sans qu'il y ait forcément affrontement, sans qu'il y ait forcément des troubles. J'appelle les uns et les autres au calme. Selon que notre gouverneur, Banzamulume Marmo, les demande, selon aussi que notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les demande. Arrêtez de vous entretuer, car nous sommes appelés de nous unir, car nous désunir, surtout pendant ces temps-ci.
Avant de passer à la page internationale, nous allons à Beni dans le Nord Kivu, où la police de la MONUSCO UNPOL a sensibilisé samedi plus de 200 policiers et policières de l'unité de police constituée FPU indienne et de la police nationale congolaise PNC à la lutte contre le cancer du sein. Selon les organisateurs, c'est dans le cadre de la journée mondiale des luttes contre cette maladie, célébrée le 26 octobre de chaque année. André Kitenge.
C'est dans sa stratégie de vulgarisation et de sensibilisation aux questions relatives à la protection et sécurité des personnes que la police de la MONUSCO UNPOL a organisé cette activité au profit des policiers de l'unité de police constituée indienne et de la police nationale congolaise. Selon Thérèse Dungwe, officier de liaison santé et environnement du secteur UNPOL de Beni, l'objectif était d'amener les participants à être des acteurs de la lutte contre le cancer du sein.
Ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils mettent en pratique toutes les mesures préventives que nous allons leur dispenser, afin de réduire au maximum ce cancer.
Les participants ont pris connaissance des pratiques basiques pour découvrir les signes du cancer de sang afin d'éviter la maladie, première cause de mortalité chez les femmes dans le monde. Micheline Ekangaza, sage-femme au centre hospitalier de la police nationale congolaise de Beni.
Je suis très contente de cette journée. C'est une journée, il faut montrer aux gens comment décrire ça avant qu'ils viennent une pathologie. Il y a les signes, on palpe au niveau des seins et on va montrer comment palper, comment faire pour découvrir au niveau des seins. C'est pour cela qu'il faut montrer aux femmes comment faire ça pour découvrir.
Cette maladie a tué 685 000 femmes l'année dernière où le dépistage et l'accès au traitement est compliqué selon l'OMS. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au moins 124 personnes ont été tuées par les forces de soutien rapide FSR au Soudan dans le village d'Al-Seira, dans l'état d'El Ghezira, lors d'un raid survenu vendredi. Cet incident tragique est l'une des attaques les plus meurtrières d'un conflit de 18 mois marquant une intensification de la violence dans la région. Les FSR ont mené cette attaque en représailles à des tensions récentes avec l'armée, affirmant que celle-ci fournissait des armes aux civils dans la région. La situation à Ghezira est alarmante avec des pillages, des meurtres et des déplacements massifs. Selon le comité de résistance de Wad Madani, ce raid a également fait 100 blessés.
L'invité.
Nous recevons dans cette édition du journal Arsène Aganzé, il est délégué national du mouvement ATD Cartmonde, un mouvement qui se donne mission de tenter de mettre fin à l'extrême pauvreté. Ce mouvement est implanté en RDC, spécialement dans la partie Est. On écoute son délégué national à travers les échanges qu'il a réalisés avec Jean Kassami à Bukavu à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la misère.
Bonjour monsieur.
Bonjour messieurs les journalistes.
Quand on parle du mouvement ATD Cartmonde, d'aucuns se posent la question, c'est quoi le mouvement ATD Cartmonde?
Voilà, ATD Cartmonde, c'est une organisation d'abord internationale. Et ATD, c'est une sigle. A, c'est agir, T, c'est tous, et D, c'est dignité. Alors, agir tous pour la dignité du Cartmonde. Ce sont les personnes là qui vivent vraiment dans l'extrême pauvreté. Quand on parle des quarts par rapport à la numérotation, on disait tiers, quart-monde, vraiment ce sont des personnes là qui vivent dans l'extrême, extrême pauvreté.
Où se trouvent vos bureaux sur l'étendue de la République démocratique du Congo? Êtes-vous présent partout au pays?
Jusque-là, non, on n'est pas représenté dans toute l'étendue de la République, mais le mouvement est représenté à l'est de la République démocratique du Congo, dans les deux provinces d'eau. Les sites Kivu et les Nord Kivu. Nous avons des membres du mouvement à Goma, nous avons les membres du mouvement ici à Bukavu, à Uvira et à Kavumu.
Là où vous opérez, vous faites quoi?
En fait, nous avons des membres et comme nous sommes une organisation qui a une mission, et notre mission est de mettre fin à l'extrême pauvreté et en y associant aussi les personnes qui la subissent. Comme l'a initié son fondateur, qui est le père Joseph Rosinski, parce que lui-même aussi l'a vécu la vie d'extrême pauvreté. Il a dit que c'est important d'initier toutes les personnes qui subissent cette vie de pauvreté, afin que leur droit soit reconnu à travers le monde. Alors nous, en tant qu'ATD au niveau de la RDC, nous avons en tout cas suivi la philosophie que le père Joseph, le fondateur, a commencé en mettant ensemble les personnes-là. Parce que ce sont les personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté qui savent, qui maîtrisent bien la souffrance qu'ils sont en train de vivre au quotidien.
Mettre fin à l'extrême pauvreté, n'est-ce pas ambitieux?
Oui, c'est vraiment ambitieux, mais on ne peut pas le faire nous-mêmes. C'est pourquoi on fait appel à tout le monde, parce que ce n'est pas une affaire seulement à l'organisation ATD Cartmonde, et même les organisations d'autres personnes, même les journalistes, tout le monde est appelé à s'y mettre pour éradiquer. Mettre fin à l'extrême pauvreté, c'est vraiment ambitieux. Mais vraiment, nous pensons, en tant que membres du mouvement ATD Cartmonde, si nous nous mettons ensemble avec d'autres personnes, et les mêmes les personnes qui la subissent, on peut vraiment éradiquer cette vie d'extrême pauvreté.
Quelles sont les grandes difficultés auxquelles votre mouvement fait face?
Comme tant d'autres organisations, il y a beaucoup de défis, beaucoup de difficultés que nous traversons. Parce que les membres des familles solidaires, des personnes-là qui subissent la vie d'extrême pauvreté, et si vous allez constater dans notre société, il y a beaucoup d'injustices. Et ces familles-là que nous accompagnons,
ils viennent nous dire les difficultés auxquelles ils font face ou des témoignages qu'ils nous montrent ici, des injustices auxquelles ils sont victimes. Et ce sont vraiment des très grandes réalités que nous vivons ici en RDC. Et ça constitue une difficulté parce que le mouvement en soi, lui, en tant qu'organisation, n'a pas assez de moyens. Parce qu'on ne peut pas tout simplement dire qu'on peut éradiquer la pauvreté, ça mettrait aussi des moyens. Par exemple, les moyens financiers. Parce qu'il y a des actions que les familles mènent, les activités génératrices de revenus, auxquelles ils devraient vraiment œuvrer pour éradiquer la vie qu'ils mènent comme la vie de pauvreté. Mais pour y arriver, il faut des moyens. Et l'organisation en soi, elle-même, elle ne peut pas y arriver parce qu'on n'a pas assez de moyens. On fait appel à d'autres organisations, on fait appel au gouvernement parce que c'est ça le rôle du gouvernement. Le gouvernement doit aussi agir au nom de ces personnes-là qui vivent dans l'extrême pauvreté.
Merci beaucoup pour cette sorte de carte postale que vous venez de nous poser concernant les mouvements ATD 40 RDC.
Merci aussi, merci.